Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. À nouveau ensemble dans nos lectures en liberté, pour la suite du roman de Richard Brautigan, Le monstre des Hauklines. La route s'enfonçait dans la désolation des Dead Hills, qui disparaissaient derrière eux pour réapparaître de nouveau. Tout était toujours pareil, et tout était très tranquille. Un instant, Greer crut voir quelque chose de différent, mais il comprit qu'il s'était trompé. Ce qu'il avait vu était identique à ce qu'il voyait. Il avait cru que c'était plus petit, mais c'était en réalité exactement de la même taille que tout le reste. Il hocha lentement la tête. « Où est-ce que Pils se procure ses chevaux ?» demanda Cameron à Magic Child. « C'est ce que tout le monde cherche à savoir, » répondit Magic Child. Au bout d'un moment, Cameron eut envie de compter, mais comme tout était pareil à tout le reste, il n'était guère facile de trouver quelque chose à compter. Alors Cameron compta les pas du cheval qui le menait toujours plus profondément devant les Dead Hills désolés, tandis que Miss Hauklines, debout sur le porche d'une gigantesque maison jaune, la main en visière pour se protéger du soleil, scrutait les Dead Hills. Elle portait un gros manteau d'hiver. Magic Child était très contente de rentrer chez elle, et elle se considérait comme chez elle au milieu de ces collines mortes. Cependant, on n'aurait pas pu deviner sa joie car son visage portait une expression immuable et qui ne reflétait pas le bonheur. Elle semblait anxieuse et vaguement rêveuse. Elle portait cette expression depuis leur réveil dans la grange. 911, annonça Cameron. Qu'est-ce que tu comptes maintenant ? Demanda Magic Child d'une voix très intelligente, car elle était loin d'être bête, Magic Child. Elle était sortie première de Radcliffe et elle avait pris des cours à la Sorbonne, puis elle avait étudié la médecine à John Hopkins. Elle appartenait à une excellente famille de la Nouvelle-Angleterre et ses ancêtres avaient traversé l'Atlantique en 1620 sur le Mayflower. Sa famille avait joué un rôle essentiel dans l'épanouissement culturel et social de la Nouvelle-Angleterre. La chirurgie était sa spécialité. « Des pas de chevaux, » répondit Cameron. Soudain, un serpent à sonnette traversa rapidement la route. À la vue du serpent, les chevaux ruèrent en hennissant. Mais le serpent avait déjà disparu. Il fallut quelques minutes pour calmer les chevaux. Quand les chevaux furent redevenus normaux, Greer dit « Il était bien gros, ce bon dieu de serpent à sonnette. Je ne pense pas en avoir vu d'aussi gros. Et toi, Cameron, as-tu jamais vu un aussi gros serpent à sonnette ?»« Pas plus gros, en tout cas, » dit Cameron. « C'est bien ce que je pensais, » dit Greer. Magic Child essayait d'attirer leur attention. « Oui, qu'y a-t-il, Magic Child ?» dit Greer. « Nous sommes presque à la maison, » répondit-elle, et soudain, son visage s'éclaira d'un grand sourire. La route tournait un peu, puis se perdait derrière l'horizon d'une colline morte, et du haut de cette colline, on pouvait voir une énorme maison jaune, à 3 étages, située au milieu d'une petite prairie de la même couleur, à l'exception du tour de la maison où le sol était blanc comme neige. On ne voyait ni clôture, ni dépendance, ni rien d'humain, ni même un arbre, près de cette maison. Elle se dressait là, toute seule, au milieu de la prairie, avec quelque chose de blanc tout autour sur le sol. Il n'y avait même pas de grange. À environ 100 mètres de la maison, 2 chevaux paissaient, et à la même distance, on pouvait voir une grande quantité de poulets roux picorés sur la route qui se terminait devant le porche de la maison. La route s'arrêtait comme la signature d'un mourant sur un codicille. Un gigantesque tas de charbon gisait à côté de la maison. Celle-ci était bâtie dans un pur style victorien, avec d'énormes pignons, des fenêtres à vitraux, des tourelles, des balcons, des cheminées de briques rouges et une véranda colossale qui faisait le tour de la maison. La maison comportait 21 pièces, dont 10 chambres à coucher et 5 salons. Un simple coup d'œil sur la maison suffisait pour s'apercevoir qu'elle n'était certes pas à sa place, entourée ainsi par le vide et la solitude des Dead Hills. Cette maison aurait dû se trouver à Saint-Louis, à San Francisco ou à Chicago ou n'importe où, sauf là. Même Billy aurait pu être un endroit plus indiqué pour cette maison, mais telle qu'elle était, là, elle n'avait aucune raison d'être, si bien qu'elle semblait échapper d'un rêve. Une lourde fumée noire jaillissait des 3 cheminées de briques. Au sommet de la colline régnait une température de 35 degrés. Greer et Cameron se demandaient pourquoi l'on faisait du feu dans cette maison. Ils restèrent ainsi en selle un moment sur l'horizon, les yeux rivés sur la maison. Magic Child souriait toujours. Elle était très heureuse. « Je n'ai jamais rien vu de plus étrange de ma vie, » dit Greer. « Oh, n'oublie pas Hawaï !» dit Cameron. Miss Hawkline. Il descendait la colline vers la maison quand la porte s'ouvrit. Une femme apparut sur le porche. C'était Miss Hawkline. Elle était enveloppée dans un grand manteau. Elle les regarda se rapprocher de la maison. Greer et Cameron trouvèrent curieux qu'elle portât ce lourd manteau par un chaud matin de juillet. Elle était grande et mince, avec de longs cheveux noirs. Le manteau longeait son corps comme une chute d'eau jusqu'à ses bottines pointues. Celle-ci était vernie et étincelait comme du charbon. Elle aurait très bien pu provenir de l'énorme tas de charbon à côté de la maison. Elle se tenait ainsi sous le porche et les regardait s'approcher. Elle ne fit aucun mouvement vers eux. Aucun mouvement. Elle restait là, immobile, à les regarder descendre la colline. Elle n'était pas la seule à les regarder. On les observait également du haut d'une fenêtre. Lorsqu'ils ne furent plus qu'à 100 mètres de la maison, l'air soudain devint glacial. La température baissa de 20 degrés avec la brutalité d'un coup de couteau. En un clin d'œil, il passait de l'été à l'hiver. Les 2 chevaux et la foule de poulets roux restèrent dans la chaleur et les regardèrent s'enfoncer dans le froid à quelques pas de là. Magic Child leva lentement le bras et de la main fit un signe affectueux à cette femme qui lui rendit son salut avec une même affection. À 50 mètres de la maison, ils s'aperçurent que le sol sous leurs pieds était verglacé. La femme fit un pas en avant. Son visage était d'une incroyable beauté. Elle avait des traits fins et nets comme le son d'une cloche d'église par une nuit de pleine lune. Quand ils furent à environ 25 mètres de la maison, elle s'avança jusqu'à l'escalier de 8 marches qui descendait vers l'herbe jaune que le gel transformait en une sorte d'étrange vermeil. L'herbe atteignait le pied de l'escalier et semblait vouloir s'étendre plus encore. Cependant, les congères entassées tout autour de la maison empêchaient l'herbe de la toucher. Sans cette neige, l'herbe jaune gelée aurait été une extension logique de la maison, comme un tapis trop grand qui en dépasserait les limites. Cette herbe était gelée depuis des siècles. Soudain, Magic Child se mit à rire. La femme aussi se mit à rire et ce fut la plus douce des musiques qui s'éleva dans l'air froid avec la vapeur blanche de leur souffle. Greer et Cameron gelaient. La femme descendit l'escalier en courant vers Magic Child, qui glissa de sa selle et se jeta dans ses bras. Elles restèrent ainsi un moment enlacées, sans cesser de rire. Elles étaient de la même taille, leurs cheveux étaient de la même couleur, elles avaient la même allure et les mêmes traits, elles ne faisaient qu'une. Magic Child et Miss Oakline étaient jumelles. Elles restèrent ainsi enlacées, en train de rire, deux femmes splendides et irréelles. « Mais je les ai trouvées !» dit Magic Child. « Ils sont parfaits !» Et la neige s'entassait autour de la maison par cette chaude journée de juillet. Greer et Cameron descendirent de cheval. Miss Oakline et Magic Child ayant épuisé leur marque d'affection réciproque, Miss Oakline se tourna vers eux, prête à les accueillir. « Je vous présente Miss Oakline, » dit Magic Child. Debout là et ressemblant exactement à Miss Oakline, sauf qu'elle portait des vêtements indiens, alors que Miss Oakline portait une très jolie toilette d'hiver de la Nouvelle-Angleterre. « Greer, Miss Oakline, » dit Magic Child. « Ravi de vous connaître, Miss Oakline, » dit Greer. Il souriait doucement. « Je suis très heureuse de vous voir ici, » dit-elle. « Et Cameron, » dit Magic Child. « Et vous aussi, » dit Miss Oakline. Cameron fit un signe de tête. Puis Miss Oakline vint leur serrer la main. Sa main longue et délicate avait beaucoup de force. Cette force les surprit. Ce fut une nouvelle surprise dans une journée où elle n'allait pas manquer, car tout ce qui jusque-là les avait surpris n'était qu'un simple acompte sur ce qui allait leur arriver avant la fin du jour. « 1, 2, » dit Cameron, en regardant Miss Oakline et Magic Child. « Pardon, » dit Miss Oakline, attendant la suite de la phrase, mais Cameron n'ajouta rien. « Cela veut dire qu'il est très heureux d'avoir fait ta connaissance, » dit Magic Child, en souriant à Greer. « Entrons, » dit Miss Oakline, « je vous expliquerai la raison pour laquelle Magic Child est parti à votre recherche et ce qu'il vous faudra faire pour gagner votre argent. Avez-vous déjà pris un petit déjeuner ?»«
Nous sommes partis au lever du jour, » dit Magic Child. « Alors un bon petit déjeuner me paraît s'imposer, » dit Miss Oakline.
Greer et Cameron avaient remarqué que l'air devenait de plus en plus froid, comme l'on approchait de la maison qui se dressait telle une petite montagne de bois couverte de neige jaune. Greer aperçut quelque chose derrière une fenêtre du deuxième étage. Cela flotta comme un petit miroir, puis disparut. Il se dit qu'il devait y avoir quelqu'un dans la maison.
« Vous avez remarqué le froid, n'est-ce pas ?» demanda Miss Oakline comme il montait l'escalier.
« Oui, » répondit Greer.
« Il y a sous la maison des cavernes de glace, » dit Miss Oakline. « C'est pourquoi il fait si froid. »
Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced.
helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Tangled up in blue. Job in the great north woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a bee employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew. Working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face, and the spotlight so clear. Later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Pipe. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, Montague Street, the basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally, the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. To get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Le monstre des Haukline, Richard Brautigan. Ils entrèrent dans la maison. Elle était pleine d'un très beau mobilier victorien et glacial. La cuisine est par ici, dit Miss Aucline. Je vais vous préparer votre petit déjeuner. Je crois, mes amis, que des œufs au jambon vous feraient le plus grand bien. Je monte me changer, dit Magic Child, et elle disparut derrière la rampe courbe d'un escalier en acajou. Greer et Cameron la suivirent des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu. Ils rejoignirent alors Miss Aucline dans la cuisine. C'était un plaisir de la suivre. Elle avait ôté son manteau. Elle portait une longue robe blanche à haut col de dentelle. Elle était très exactement faite comme Magic Child. Greer et Cameron pouvaient l'imaginer toute nue, pareille à Magic Child, et tout aussi agréable à regarder. « Je vais vous préparer le petit déjeuner, puis je vous dirai ce que nous voulons. La route de Portland est longue. Je suis bien contente que vous soyez venus. Je crois que nous allons tous devenir des amis. » La cuisine était immense. Il y avait une grande fenêtre par laquelle on pouvait voir la neige et le verglas. Un bon feu brûlait dans la cuisinière. La pièce était chaude et confortable. Greer et Cameron se mirent à table et Miss Aucline leur versa du café noir très fort, à l'aide d'une énorme cafetière qu'elle avait prise sur la cuisinière. Elle tailla d'épaisses tranches de jambon qu'elle mit à cuire sur le feu. Elle prépara quelques biscuits qu'elle mit au four. Greer et Cameron n'avaient jamais vu personne préparer des biscuits aussi vite. Miss Aucline était aussi habile cuisinière qu'elle l'était pour les autres choses de la vie. Elle prépara le repas en silence. Elle leur demanda cependant s'ils aimaient Portland et ils répondirent que oui. Greer et Cameron l'observaient attentivement, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Ils savaient qu'ils n'étaient encore qu'au seuil d'aventures fort étranges. Ils paraissaient tranquilles, détendus, pas pressé du tout, comme si tout ce qui venait de se passer et cette curieuse maison perchée sur ces cavernes de glace et entourée de verglas au beau milieu de l'été ne les étonnait pas le moins du monde. Cameron avait porté dans la maison sa malle pleine d'armes. Il l'avait laissée dans le vestibule à côté d'une patte d'éléphant montée en porte-parapluie et d'ailleurs pleine de parapluies noirs. Pendant la préparation du petit déjeuner, Magic Child entra dans la cuisine. Elle était exactement habillée comme Miss Aucline. Elle était coiffée de la même façon et ses bottines vernies luisaient comme du charbon. Il était impossible de les distinguer l'une de l'autre. Elles étaient tout à fait semblables. « Comment me trouvez-vous ? » demanda Magic Child. « Très bien, » dit Greer. « Oui. » « Vous êtes une bien belle fille, » ajouta Cameron. Comme je suis heureuse que tu sois de retour, » dit Miss Aucline. Et laissant là sa cuisine, elle alla serrer Magic Child dans ses bras. Greer et Cameron restèrent assis là à regarder ces deux versions de la même jolie femme. Miss Aucline alla donner les derniers soins à l'organisation du petit déjeuner et ils furent bientôt tous assis autour de la table pour partager le premier des nombreux repas qu'ils allaient prendre ensemble. Mort de Magic Child. Quelqu'un d'autre prendra-t-il son petit déjeuner avec nous ? Demanda Greer en se préparant à attaquer son repas. Il pensait à cet éclat de lumière qu'il avait aperçu derrière une fenêtre. Il pensait que cette lumière avait été provoquée par quelqu'un. « Non, » dit Miss Aucline, « il n'y a que nous dans cette maison. » Cameron contempla sa fourchette. Elle était posée à côté de son assiette au délicat motif chinois. Il tourna les yeux vers Greer, puis il prit sa fourchette et se mit à manger. « Que voulez-vous que nous fassions pour vous ?» demanda Greer. Il venait d'avaler une grosse bouchée de jambon après l'avoir soigneusement mâché. Greer mangeait toujours lentement, c'était un gourmet. « 5 000 !» annonça Cameron. Comme il avait encore quelque chose dans la bouche, on ne distingua pas nettement ce qu'il disait. « Vous devez tuer le monstre qui vit sous la maison dans les cavernes de glace !» dit Miss Aucline en se tournant vers Cameron. Un monstre ? Répéta Greer. Oui, un monstre, dit Magic Child. Ce monstre habite les cavernes. Nous voulons qu'il meure. Nous avons un sous-sol où est installé un laboratoire au-dessus de ces cavernes. Une porte de fer sépare ce laboratoire des cavernes et une autre porte de fer sépare le laboratoire de la maison. Ces portes sont très épaisses. Mais nous craignons qu'un jour il ne les enfonce et ne monte dans la maison, et nous ne voulons pas que le monstre se mette à déambuler partout dans la maison.
Ah ça, je comprends bien, dit Greer. Personne n'a envie de voir des monstres déambuler dans une maison. Il dit cela avec un doux sourire.
Et de quelle espèce de monstre s'agit-il ? Demanda Cameron.
On ne le sait pas, répondit Miss Hawkline. Nous ne l'avons jamais vu, ajouta Magic Child.
Depuis leur arrivée dans la maison, Magic Child avait beaucoup changé. Elle ressemblait de plus en plus à Miss Hawkline. Sa voix aussi avait changé, ainsi que l'expression de son visage. Elle se rapprochait de plus en plus de Miss Hawkline dans sa façon de parler, de se mouvoir et de faire les choses.
Mais nous l'entendons hurler dans les cavernes de glace et donner des grands coups dans la porte en fer, comme s'il la frappait avec sa queue, dit Magic Child, tout à fait à la manière de Miss Hawkline.
Magic Child était en train de devenir Miss Hawkline, là, sous les yeux de Greer et de Cameron. Ils n'avaient pas fini le petit déjeuner, que déjà ils étaient incapables de trouver la moindre différence entre elles.
Seules les places qu'elles occupaient à table permettaient de savoir s'il s'agissait de Magic Child ou de Miss Hawkline.
« Il fait un bruit terrible et nous avons très peur !» dit Magic Child.
Greer se disait que dès qu'elle se lèverait et qu'il les quitterait des yeux une seconde, il ne saurait plus reconnaître Magic Child de Miss Hawkline. Il comprit soudain que Magic Child allait mourir dans cette cuisine et qu'une seconde Miss Hawkline allait naître, et il y aurait deux Miss Hawkline. Il serait impossible de faire la différence entre elles. Greer se sentit un peu triste, il l'aimait bien, Magic Child.
Un instant plus tard, comme ils étaient en train de parler du monstre, les deux femmes se levèrent ensemble, et elles se mirent à débarrasser la vaisselle du petit déjeuner.
Greer ne quittait pas des yeux celle qui était Magic Child. Il ne voulait pas la perdre.
« Oh, nous n'avons jamais tué de monstre !» dit Cameron.
Accidentellement, Greer leva les yeux pour écouter Cameron. Il comprit alors avec horreur ce qu'il venait de faire, mais il était trop tard.
Impossible de les reconnaître maintenant. Magic Child était morte.
Laquelle de vous deux est Magic Child ? Demanda Greer.
Les sœurs Hawkline s'arrêtèrent de ranger la vaisselle du petit déjeuner et se tournèrent vers Greer.
Magic Child est morte, dit l'une des deux femmes.
Pourquoi ? Demanda Greer. Elle était très gentille et je l'aimais beaucoup.
Moi aussi je l'aimais beaucoup, dit Cameron.
Mais c'est ainsi que va le monde.
Cameron possédait une mentalité qui pouvait tout accepter.
On meurt quand on a assez vécu, dit une des sœurs Hawkline.
Magic Child a vécu autant qu'elle le devait. Ne soyez pas triste, sa mort était nécessaire, mais ce fut sans douleur. Elles souriaient toutes les deux à Greer et Cameron. Il n'y avait aucune différence entre ces deux femmes, elles étaient tout à fait semblables.
Greer eut un gros soupir.
Mais alors il va vous falloir un autre nom, dit Greer.
« Il n'y a pas de différence entre nous, nous sommes la même personne, » dit une des deux femmes.
« Elles sont toutes les deux Miss Hawkline, » dit Cameron pour conclure. « J'aime bien Miss Hawkline, et maintenant il y en a deux. Appelons-les toutes les deux Miss Hawkline. Après tout, qu'est-ce que ça peut foutre ?»«
Parfait, » dit Miss Hawkline. « C'est cela, appelez-nous simplement Miss Hawkline, » dit Miss Hawkline.
« Eh bien, je suis content que tout cela soit réglé, » dit Cameron. « Vous avez un monstre dans la cave, c'est bien cela, et il faut le tuer. »«
Non, pas dans la cave, dans les cavernes de glace, » rectifia Miss Hawkline.
« Ben, c'est pareil, » dit Cameron.
« Parlez-nous donc un peu de cette bon Dieu de créature, puis on descendra lui faire sauter la tête. »
Les deux demoiselles Hawkline s'assirent à table avec Greer et Cameron et commencèrent le récit du monstre des Hawkline.
Notre père a construit cette maison, dit Miss Hawkline.
C'était un savant qui enseignait à l'université de Harvard, dit l'autre Miss Hawkline.
Harvard, dit Cameron.
Oui, une université célèbre de la côte Est, dit Miss Hawkline.
Bon, on n'est jamais allé dans l'Est, dit Greer.
Si, dit Cameron, on est allé à Hawaï.
Ben, c'est pas dans l'Est, dit Greer.
Et les Chinois, alors, ils ne viennent pas de la Chine et la Chine n'est pas à l'Est, lui rétorqua Cameron.
Ben, c'est pas pareil, dit Greer.
Saint-Louis se trouve dans l'Est, ou Chicago.
Des endroits comme ça, dit Greer.
Tu veux dire cet Est-là, dit Cameron.
Ouais, dit Greer, cet Est-là.
Le monstre, commença Miss Hawkline, essayant de revenir à son sujet, celui du monstre qui habitait les cavernes de glace sous leur maison.
Ouais, dit Greer. Comment diable est-ce qu'on est venu à parler de Hawaï? Je déteste Hawaï.
J'en ai parlé, dit Cameron, parce que nous parlions de l'Est. Moi aussi, je déteste Hawaï.
Hawaï, c'est vraiment le truc con à dire dans cette conversation, dit Greer. Ces dames ont un problème. Elles nous payent pour qu'on s'en occupe et on va s'y mettre. De plus, je sais parfaitement que tu détestes Hawaï parce que j'y étais avec toi dans ce bon Dieu de pays et je sais que tu t'en souviens parce que tu n'oublies jamais rien.
Le monstre, commença l'autre Miss Hawkline, essayant de revenir à son sujet, celui du monstre qui vivait dans les cavernes de glace sous leur maison.
À mon avis, voici le problème, dit Cameron, sans prêter attention à Miss Hawkline et son monstre. Si Miss Hawkline avait dit là-bas, dans l'Est, j'aurais tout de suite compris de quel Est elle voulait parler. Or, elle a dit dans l'Est. Alors moi, j'ai cru qu'elle parlait de Hawaï, d'où nous revenons. Tout ça, c'est parce qu'elle a dit dans l'Est et non pas là-bas, dans l'Est. N'importe quel imbécile sait que Chicago est là-bas, dans l'Est.
Cette conversation entre Greer et Cameron était des plus étranges. Ils n'avaient jamais eu une telle conversation auparavant. D'habitude, leur conversation se déroulait très normalement, sauf que Cameron comptait tout ce qui traversait leur existence et que Greer avait fini par s'y habituer. Il l'avait bien fallu, puisque Cameron était son associé.
Greer rompit brutalement le charme de leur conversation en se détournant de Cameron, ce qui n'était guère facile, pour demander à Miss Hawkline « Et votre père, quel rôle joue-t-il dans cette histoire de monstre caché dans votre cave ?»«
Mais le monstre n'est pas dans la cave !»
s'exclama Miss Hawkline, légèrement agacée. « Il vit dans les cavernes de glace qui sont dessous. Nous n'avons pas de monstre dans notre cave, c'est le laboratoire qui est au sous-sol. »
La conversation qui venait de s'achever entre Greer et Cameron à propos de l'Est l'avait énervé.
« Bon, dit l'autre Miss Hawkline, reprenons au commencement. Notre père a construit cette maison. »
Voilà donc, nous avons terminé pour ce soir la suite de ce roman de Richard Brautigan, Le monstre des Hawkline, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.